même sur la famille qu'on entend, la famille terrestre. Et avant ça, j'aimerais prendre quelques instants juste pour nous présenter. Je sais que beaucoup nous connaissent, mais j'aimerais quand même prendre quelques instants pour présenter notre famille. Donc, si j'ai fait quelque chose, je ne sais plus. Si on passe au chart suivant, normalement, on doit avoir. Non. Donc, Sandra, Timothée, et nous avons quatre enfants, Mathis, Eloïa, Noam et Maëva, qui ont donc 10 ans, 8 ans, 6 ans et 6 mois. Donc, moi, je suis informaticien de métier, et ma femme est professeure des écoles. Et on est tous les deux, en fait, à temps partiel. On a décidé, en fait, depuis l'année dernière, de dégager du temps et d'avoir plus de temps pour le service, pour en tant que missionnaire, en fait. Et donc, on dégage à tous les deux à plein temps, en fait, pour servir, pour travailler, en fait, aux fabricants de joie. Les fabricants de joie, c'est quoi? C'est, en fait, une structure qui organise, en fait, et qui a à cœur, en fait, l'enfance, la jeunesse et la famille. Et on est investi, donc Sandra et moi, dans cette organisation, notamment dans plusieurs domaines. Un domaine qui s'appelle MC4, qui vient toucher les enfants en fait, des quartiers, avec Quartier Libre, peut-être vous connaissez Quartier Libre, et Antizone. Donc on est coordinateur national en fait, sur l'ensemble de la France, et on est amené à se déplacer pour aller encourager les équipes et les groupes et les églises qui font Quartier Libre en France. Et on a à cœur aussi la famille, et chaque année, en fait, on est... participants en fait, et on organise avec l'équipe des camps famille, mais aussi on a aussi à cœur de développer cet aspect famille, et donc c'est ce qu'on est amené à faire aussi dans ce travail qu'on veut mettre en place. Et on a aussi, on aime beaucoup aussi les outils que peut-être que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler, Minicel, Patacel, c'est des outils qui viennent des fabricants de joie, et on est amené à faire des formations ou à aussi développer ce domaine-là en fait, dans le cadre des fabricants de joie. On est très heureux d'être ici parmi vous, et j'aimerais vraiment remercier les anciens de nous avoir accueillis, de nous avoir proposé en fait de venir et de pouvoir partager sur la famille. Donc merci beaucoup, merci à vous. Et allons-y pour la suite. J'aimerais présenter une petite vidéo pour commencer. Peut-être certains vont se reconnaître dans cette vidéo. Donc si tu cliques dessus, ça devrait marcher normalement. Il faut peut-être la déplacer. Alors avec le changement d'heure, peut-être certains vont se reconnaître. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous savez que dans la Bible, il est communément traduit, associé le mot famille par le mot maison. Et que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. On a plusieurs exemples, comme par exemple « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », que vous connaissez bien, Josué 24:15. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Il n'est pas question des meubles qui sont dans la maison qui louent l'Éternel. Il est bien question effectivement de la famille, l'ensemble de la famille. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Il y a d'autres exemples également dans le Nouveau Testament. « Dès lors, il crut, lui et toute sa maison ». Jean 4, verset 53. « Dès lors, il crut, lui et toute sa maison ». Et il existe encore de nombreux exemples, je pense que vous en connaissez plein, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, de ce qu'on a une association entre la maison et également entre la famille. Et il est intéressant de constater dans ce passage que Jésus ne s'est pas contenté d'un entretien en public au milieu de la foule, mais il a souhaité rencontrer Zachée dans sa maison. Il a souhaité aller chez lui, demeurer chez lui. Et que se passe-t-il au terme de cette rencontre? On a un Zachée qui est transformé, on a une réelle conversion, un réel changement de vie et d'attitude. « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui en rendre 4 fois plus. » Quelque chose s'est passé dans cette maison. Est-ce que nous ne sommes pas parfois comme Zachée? On est parfois dans nos activités, quelles que soient les activités que ce soit, dans notre semaine, on est par vent et par eau, et on est peut-être comme ce Zachée qui vient auprès de cet arbre, qui grimpe dans cet arbre pour voir Jésus passer. Et puis on descend et on continue notre semaine et on rentre à la maison. Mais Jésus, lui, ne se contente pas simplement d'un passage dans nos vies. Ce qu'il souhaite réellement, ce qu'il désire, c'est habiter dans chacune de nos maisons, dans chacune de nos familles. Il désire transformer nos cœurs, accomplir des miracles en nous, comme il l'a fait également pour Zachée. Ce qu'il souhaite, c'est demeurer chez nous, c'est demeurer dans notre maison. Et il n'est pas mention de la famille de Zachée dans le passage, donc on va essayer de l'imaginer. Peut-être qu'il était seul, peut-être qu'il avait une famille. Mais on peut facilement imaginer que s'il avait une femme et des enfants, il devait certainement être pas très loin finalement de l'action, de là où se passait la scène. Et on sait que dans d'autres histoires, c'est exactement ça qui se passe en fait. On a les enfants, on a la femme qui est pas loin. On a parfois même des voisins qui viennent, je pense notamment à Corneille par exemple. Et de savoir finalement que quand Jésus accomplit quelque chose, on a toujours la famille, on a toujours les enfants, la femme qui sont pas loin. On a toujours le mari qui est pas loin non plus. Et on croit qu'il y a une action particulière qui se passe dans la maison. Et donc quelques versets plus loin, il est mentionné « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison ». Et donc là, à nouveau, Jésus atteste et il signe que quelque chose s'est produit dans la maison de Zachée. Et quelle place nous souhaitons laisser aujourd'hui à Jésus dans notre maison ? Quelle place chacun de nous, nous voulons laisser à Jésus dans chacune de nos habitations ? Et c'est également ce que l'on peut aussi retrouver dans la maison de Obed-Edom. Est-ce que vous connaissez le personnage de Obed-Edom de l'Ancien Testament qui a accueilli l'Arche de l'Alliance ? On va prendre juste quelques instants, je vais vous lire le verset, parce que là ça va être pareil, vous n'allez pas réussir à le lire, il va être très petit. Je m'en excuse, je crois que j'ai un bip en fait pour passer, c'est ça ? Oui, je n'ai pas l'habitude. Génial. David rassembla encore toute l'élite d'Israël. Donc on est à l'époque de David, l'Arche de l'Alliance a été dans le peuple philistin, et il décide finalement, enfin il ne décide pas, il s'est passé tellement de malheurs chez les philistins, peut-être vous les connaissez, il y a eu une statue qui est tombée face contre terre, la tête s'est cassée, ils ont eu pas mal de problèmes au niveau digestif, on va dire. Et en fait, ils ont décidé de ramener cette arche dans le pays auquel il appartenait. Et donc ils l'ont ramené sur un char, et là donc on a l'histoire qui commence, David qui se réjouit, qui est content que l'Arche de l'Alliance revienne finalement dans le peuple d'Israël. David rassemble encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes, et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Bala-Juda pour faire monter de là l'Arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'Arche. Ils mirent sur un char neuf l'Arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza marchait à côté de l'Arche de Dieu. Et Adjo, peut-être que j'écorche le nom, je suis désolé, allait devant l'Arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Ils se réjouissaient de voir finalement cette Arche qui revenait en Israël. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nakon, Uzza étendit la main vers l'Arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'Arche de Dieu. Ça rigole pas avec l'Arche de Dieu, avec la présence de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment. En ce lieu, donc il a donné un nom, Péret Uzza, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit « Comment l'Arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il a les cocottes un peu, L'Arche de l'Éternel, voilà, on ne l'accueille pas comme ça chez soi. Et donc, qu'est-ce qu'il décide ? Il ne voulut pas retirer l'Arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. Donc, on a un homme, Obed-Edom, qui accueille l'Arche de l'Éternel chez lui. L'Arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa famille. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui était à lui, à cause de l'Arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'Arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Il s'est passé 3 mois entre le moment où l'Arche de l'Éternel est rentrée dans cette maison d'Obed-Edom et où ça a été finalement perçu qu'il s'était passé quelque chose dans cette maison. Obed-Edom et toute sa famille a été bénie. 3 mois. Alors j'essaie d'imaginer un petit peu les maisons de l'époque. J'imagine que ça ne devait pas être des grandes maisons comme celle-là, mais ça devait être certainement une maison qui devait être pas très très grande. Et on imagine très bien l'Arche de l'Alliance, peut-être dans un coin de cette maison, ou peut-être dans une pièce à côté, et de la vie dans cette famille, de la vie dans cette maison en fait. Ça devait courir, ça devait jouer, ça devait crier, enfin, je ne sais pas comment c'était, mais c'est vrai que les enfants étaient très disciplinés à l'époque, donc peut-être que ce n'était pas le cas, mais en tous les cas, il devait y avoir de la vie dans cette maison. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage ? On se rend compte finalement que la présence de Dieu, c'est vraiment la présence de Dieu qui est représentée à travers cette Arche, hein, la présence de Dieu qui était là dans cette maison. Et cette présence, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a béni Obed-Edom et toute sa maison. Elle n'a pas béni simplement qu'Obed-Edom, elle a béni Obed-Edom et toute sa maison. Et donc David est au courant de ça, il l'entend, il se met en route, fait monter l'Arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom parce qu'il se rend compte, voilà, que il est bon, cette présence de Dieu, elle est bonne. Et est-ce qu'on est prêt à accueillir cette présence de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir dans nos maisons? Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir dans nos familles? Donc là, il est encore question d'une maison, l'Arche de l'Alliance qui entre dans une maison, la présence de Dieu au milieu d'un foyer. Ce même Dieu, 3 mois plus tôt, qui a foudroyé Ouza par un geste, pour un geste malveillant, il a béni la famille d'Obed-Edom. Ne devrions-nous pas, nous aussi, rechercher cette présence et la chérir pour notre famille? Et j'aimerais faire un parallèle, peut-être un peu osé. Mais j'aimerais m'attarder sur ce passage. Jésus est devant une porte de la maison. Il y a ce verset qui dit « Donc je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » De quel lieu est-il question dans ce passage ? Ne serait-ce pas là encore une maison? Il veut prendre un repas avec nous. Et dans cette maison, il semble qu'il n'y ait pas qu'une seule personne. Je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Ça sous-entend qu'il y a plusieurs personnes dans cette maison. Ça sous-entend qu'il y a plusieurs personnes finalement qui ont la possibilité, la capacité de pouvoir entendre qu'on frappe à la porte. À qui Jésus s'adresse-t-il dans ce passage? Est-ce qu'il s'adresse à des non-convertis? Est-ce qu'on utilise souvent ce passage finalement pour introduire... Des gens qui ne sont pas encore croyants à accepter Jésus dans leur cœur, parce que Jésus veut rentrer dans leur vie et veut passer prendre du temps avec eux. Mais quand on regarde finalement le contexte de ce passage, on se rend compte finalement qu'il s'adresse à des chrétiens, qu'il s'adresse à une église. Il s'adresse à des chrétiens qui ont besoin d'être repris et d'être corrigés par amour pour eux, parce qu'ils aiment cette église. N'avons-nous pas besoin parfois d'être repris et corrigés par amour? Nous avons perdu le goût des choses, du pourquoi nous faisons les choses. Et ça arrive parfois que nous soyons ni froids ni bouillants, finalement, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. On peut avoir ce sentiment-là, ce ressenti dans nos vies. Et de retrouver finalement, de trouver son plaisir dans d'autres richesses humaines et matérielles que finalement dans ce que Jésus veut mettre, dans ce que Jésus veut donner. Et donc Jésus est là devant la porte de notre maison, de notre foyer, et il désire prendre ce repas avec nous. Et on pourrait facilement imaginer la scène finalement d'un Jésus qui est à la porte, et on imagine dans cette maison un peu d'agitation, on imagine dans cette maison peut-être de la vie, le papa qui est occupé, la maman qui est au fourneau, et les enfants qui passent, et peut-être c'est un enfant qui entendra la porte frapper et qui va ouvrir cette porte. Et comment est-ce qu'on va l'accueillir? Non, ce n'est pas le moment, je suis occupé, laisse. Est-ce que c'est un tête-à-tête avec Jésus, ou est-ce que c'est aussi un rendez-vous que Jésus aimerait avoir avec chacun des membres de notre famille? J'aimerais raconter un petit exemple, c'est le témoignage finalement de notre fille qui s'appelle Eloïa. Elle faisait des cauchemars pendant très longtemps, elle a fait des cauchemars en fait, et c'est vrai qu'on avait pour habitude de lui dire, bah, écoute, il faut que tu aies des bonnes pensées dans ta tête en fait, il faut que tu penses à de bonnes choses, à de belles images, et peut-être que ça passera. Mais ça ne nous est pas venu à l'esprit de se dire, mais peut-être que Jésus veut un rendez-vous avec elle, peut-être que Jésus veut un rendez-vous avec elle. Et on a pris cette décision un jour de dire, bah, écoute, on va prier pour ça. On va prendre position et on va refuser que les cauchemars viennent. On va leur demander de partir dans le nom de Jésus. Parce qu'on croit que Jésus est efficace et qu'il peut agir. Et depuis ce jour-là, Eloïa n'a plus jamais fait de cauchemar. Et c'est devenu maintenant un rituel, une habitude. Le soir, avant d'aller se coucher, on prie pour Eloïa, on prie pour les cauchemars. Enfin, on prie pour les cauchemars. On demande que les cauchemars partent dans le nom de Jésus. Jésus désire habiter dans chacun de nos foyers, transformer nos cœurs et changer notre regard sur ce qui nous entoure. Accueillir Jésus dans nos vies est un acte volontaire. Si nous montons simplement sur notre sycomore le temps d'un instant pour voir Jésus passer, il n'y aura pas de transformation complète. Jésus veut accomplir dans nos vies quelque chose de bien plus grand pour nos familles. Avant même de le rechercher, à la rencontrer dans l'Église, dans la grande famille de Dieu, que vivons-nous dans notre propre foyer, dans notre couple, avec nos enfants et avec nos petits-enfants? Et donc là, on a une responsabilité. On va passer sur le chart suivant. Et cette responsabilité, on peut la trouver dans Deutéronome. Deutéronome nous dit « Les commandements que je communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. La loi de l'Éternel restera gravée dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long de la route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras, pour ne pas les oublier, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front, tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de ta porte. Les commandements que je te communique demeureront gravés sur ton cœur, tu les enseigneras à tes enfants. Nous avons un rôle en tant que famille, nous avons un rôle en tant que moniteur d'écolette, nous avons un rôle en tant que tonton, tata, grand-parent, de pouvoir transmettre, de pouvoir communiquer, de pouvoir transmettre et communiquer finalement ce que Dieu fait, ce que Dieu a accompli, la loi de l'Éternel. C'est de notre responsabilité. Et il y a des moyens très concrets de pouvoir le faire en fait avec nos enfants, et j'aimerais vous citer juste quelques petits exemples. Ce qu'on a mis en place dans notre famille, c'est d'essayer de trouver des moyens créatifs de pouvoir éveiller nos enfants finalement à la loi de l'Éternel, mais aussi à ce qu'il accomplit et à ce qu'il fait. Et on s'est amusé, peut-être vous connaissez cette chanson, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et c'est vrai que moi j'avais appris à l'école du dimanche, et je me suis dit, mais c'est dommage, peut-être que dans la famille, on peut vivre aussi des choses comme ça en famille. Et je me suis mis dans, à me dire, ben voilà, vivons-le en famille aussi. Et donc on a commencé à l'apprendre petit à petit ensemble. Et maintenant, ça devient le petit rituel, la petite habitude finalement de chanter cette chanson. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Je ne vais pas vous la chanter, mais bon, certains la connaissent déjà. Voilà, donc c'est des petites choses très pratiques en fait, mais qui permettent d'avoir un lien avec nos enfants, d'en faire entrer Jésus dans notre foyer, faire entrer Jésus dans notre famille. Et il y a une autre chose qu'on a aimé développer, en fait, qu'on a aimé faire, c'est leur apprendre les 10 commandements. Donc est-ce que vous les connaissez? Peut-être dans le désordre. Et j'ai appris un moyen mémotechnique très sympa qui permet finalement de les reconnaître. Et les enfants, vous irez leur demander pour voir s'ils s'en souviennent. Aimer Dieu, pas d'autre Dieu. On ne doit pas, utiliser le nom de Dieu en vain. Et observe le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de faux témoignages. Et tu ne convoiteras pas. Un moyen mémotechnique avec les doigts, finalement, de pouvoir faire apprendre aux enfants ces commandements, cette loi de l'Éternel, qui, je pense, est importante à connaître pour nos enfants et pour notre foyer. Apprendre des versets de la Bible en chantant aussi. On connaît plein de chansons. On les chante par habitude, mais c'est la parole de Dieu qu'on chante avec nos enfants. Rendons-nous compte de ce que nous transmettons à nos enfants quand nous prenons des chants chrétiens avec eux. Ou faire des jeux pour leur apprendre, finalement, à prier. C'est toujours difficile de faire prier un enfant. Essayons d'imaginer des choses créatives aussi pour les faire prier. On a essayé de faire quelque chose avec les enfants. On a pris une boîte d'M&M's avec des couleurs différentes. Et en fait, on distribuait à nos enfants donc des M&M's de couleurs différentes. Et chaque couleur présentait un sujet de prière. Donc ça, c'est pour la famille. Ça, c'est pour l'église. Ça, c'est pour les pauvres que l'on peut croiser. Ça, c'est pour des thèmes différents. Et ça, finalement, ça stimule un peu les enfants dans le fait de prier spontanément. Voilà, on les guide, on les accompagne dans comment finalement rentrer dans ce que Dieu veut habiter dans nos foyers, dans notre maison. C'est notre engagement en tant que famille de faire la place finalement à notre Dieu, à Jésus dans nos foyers. Et ce que nous voulons éviter pour nos enfants, c'est ce que les Hébreux ont vécu lorsqu'ils sont entrés dans le pays promis. Et j'aimerais terminer ma partie sur ça. Dans Josué 24:15, il est écrit « Et si... » Ici, il y avait des passages. Voilà. Mon engagement. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servirent nos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Ils l'ont dit, ils l'ont attesté devant Josué. Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Et un peu plus loin, donc Josué explique bien ce que ça veut dire, de ne pas s'éloigner de l'Éternel. Vous vous engagez dans quelque chose d'important. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Oui, il l'a fait. Oui, ils ont obéi. Mais quand on va un peu plus loin dans le passage, quand on va dans les juges, et qu'on lit le chapitre 2 du verset 2 au verset 10, je ne sais pas si je l'ai mis, une nouvelle génération se leva. La génération de Josué était là. Elle est passée. Elle a écouté l'Éternel. Elle a respecté la loi. Mais la nouvelle génération est là. C'est moins réjouissant quand même ce qu'il dit sur la nouvelle génération. Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'ils avaient accomplies en faveur d'Israël. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considérait comme mal et ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel. Une génération qui passe, l'Éternel qui est laissé de côté et a été finalement éloigné. Est-ce ce que nous souhaitons pour la génération de nos enfants, la génération de nos petits-enfants? Et est-ce qu'on n'a pas un mandat, est-ce qu'on n'a pas un rôle en tant que parent, en tant que grand-parent, en tant que tonton et tata, finalement de communiquer et d'oser parler de ça à nos enfants? On sait que l'Église a un mandat pour ça, mais n'oublions pas aussi que la famille en a un Et je pense que c'est le rôle de chaque parent de s'emparer de ça et de le vivre en famille. Et j'aimerais finir sur quelques petites citations. Des personnes que vous connaissez probablement également. Martin Luther qui disait « Le père et la mère sont très certainement les apôtres, les évêques et les prêtres de leurs enfants, car ce sont eux qui les mettent en contact avec l'Évangile. En bref, il n'y a pas d'autorité plus grande et plus noble sur la terre que celle des parents sur leurs enfants, car cette autorité est autant spirituelle que temporelle. Nous affirmons que la famille chrétienne, excusez-moi, c'était Martin Luther, nous affirmons que la famille chrétienne elle-même est un grand messager de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ce millénaire. Elle est véritablement un agent d'évangélisation. De plus, davantage qu'un simple objet de la préoccupation pastorale de l'Église, la famille chrétienne est également l'un des agents d'évangélisation les plus efficaces. Jean-Paul II. Que pouvons-nous faire pour promouvoir la paix dans le monde ? Rentrez chez vous et aimez votre famille. Mère Teresa, la plus utile règle de toute l'éducation, ce n'est pas de gagner du temps, c'est d'en perdre. D'en perdre pour notre famille, je rajoute un peu.
Voilà, on fait un échange de Maëva. Alors, je passe à la suite. On a vu que on invitait Dieu dans nos maisons et que ça avait de l'influence, que ça créait des choses. Et puis j'aimerais vous parler plus spécialement de quelque chose qui nous tient à cœur aussi et qu'on développe au Fabricant de Joie. Si on développe plein d'outils pour les enfants, c'est qu'on croit que les enfants vivent des choses, on croit en leur capacité spirituelle. Alors, je crois que c'est bien en fait si tu passes. Je ne sais pas qui le fait, mais c'est très bien. Parce qu'on n'arrive pas à passer là, à suivre. Trop compliqué. Donc la capacité spirituelle des enfants. Souvent, on donne un exemple. C'est que quand on a un bébé, Maëva est un bon exemple, on pense à le nourrir. Hein, on n'oublie pas ça, quand même. En plus, il pleure si on ne le nourrit pas. Et puis, on pense aussi à lui montrer de l'amour, à le câliner, etc. Donc, on nourrit son corps, on nourrit son âme avec des émotions, en lui disant qu'elle est belle, qu'on l'aime, en lui faisant des câlins. Et puis, souvent, on oublie quelque chose. C'est qu'on est corps, âme et esprit. Et on nourrit pas l'esprit. Et on nourrit l'esprit comment ? Avec la présence de Dieu, en lisant la parole, en proclamant des vérités sur sa vie. Et souvent, on oublie cette partie esprit, mais qui est importante aussi et qui fait partie de notre croissance. Parce que la nourriture, on va pas oublier. Je pense que c'est rare qu'on oublie de manger. Et puis, les émotions aussi, notre âme, elle grandit, mais voilà quand. N'oublie pas l'esprit. Et puis, je vais vous raconter quelques histoires que vous connaissez très bien, parce que c'est plein d'histoires que vous avez apprises sûrement à l'écolette ou quand vous étiez enfant, pour ceux qui ont grandi dans des familles chrétiennes. Mais j'aimerais qu'on voit aussi en tant que parents, en tant qu'adultes, comment nous, on a une place là-dedans. Et on va prendre quelques exemples, et on va commencer par Samuel. Vous connaissez tous l'histoire de Samuel, hein, je ne vais pas raconter, je vais aller vite. Mais juste, il va voir Élie, et Élie lui dit, au bout d'un moment quand même, hein, plusieurs fois, et puis après Élie lui dit, ben écoute, tu dis, parle, ton serviteur écoute. Et après, on sait que Dieu a parlé à Samuel, et on sait que... Et j'aimerais pas vous raconter l'histoire, parce que vous la connaissez, mais accentuer sur quelque chose. C'est que Élie déjà s'est dit, oui, Dieu est en train de parler à Samuel. Samuel, il était enfant. Élie, il aurait pu se dire, non mais Dieu, il me parle à moi. Samuel, un peu petit, tu sais pas encore, tu sais pas, bon, écoute... Voilà. Non, il a eu confiance, il a dit « ouais, ouais ». Et puis le lendemain, vous savez ce qui s'est passé, Élie, il est vite allé voir Samuel, il a dit « qu'est-ce que Dieu t'a dit ? J'ai trop envie de savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit ». Donc il avait confiance, confiance en ce que Dieu parlait, que Samuel entendait la voix de Dieu. Il ne s'est pas dit « non, il est trop jeune, trop petit, il ne sait pas trop ». Non, non, il s'est dit « waouh, j'ai envie de savoir qu'est-ce que Dieu lui a dit ». Et c'est quelque chose aussi que je me dis pour nous, qui est valable pour nous. Comment on réagit quand nos enfants viennent nous dire « je pense que Dieu m'a dit ça, ou j'ai eu ça dans mon cœur, et puis est-ce qu'on se dit, waouh, peut-être Dieu l'a parlé, ou est-ce que ça vient de Dieu, ou est-ce qu'on se dit, non, mais tu verras plus tard, ça c'est des affaires de grands. Et je me dis, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'on croit que nos enfants peuvent entendre la voix de Dieu, peuvent recevoir des passages, peuvent avoir des visions ? Est-ce qu'on leur laisse la place ? Parce qu'il n'y a pas que le fait qu'ils reçoivent, il y a le fait de nous aussi, comment on le considère. Parce que peut-être que Samuel, il aurait pu entendre la voix de Dieu, mais Élie aurait pu dire, bon, écoute, tu apprends, je viendrai te voir dans quelques années. Non, il y a eu. Oh, wow, j'ai trop envie de savoir. Et c'est la phrase d'après, juste de cette conclusion de ce passage. Ça ne marche pas si je claque des doigts. Hein. Voilà. Croyant que nos enfants peuvent entendre la voix de Dieu et laissons-leur la place. Et juste un court témoignage. On avait le choix de plusieurs projets cet été. Et puis, il y a deux projets qui nous ont retenu notre attention, de voyages missionnaires qu'on avait envie de faire en famille. Et puis, on a dit, on va prendre un temps d'écoute avec les enfants. Alors, ça, c'est jamais facile, les temps d'écoute. Hein. On se met ensemble, on écoute Dieu. Souvent, ça dure 30 secondes hein, pour les enfants de moins de 6 ans, on va dire. Et puis après, ils sont partis dans plein d'autres choses. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Noam, 6 ans, ça a duré 30 secondes. Après, il est parti dans un dessin. On se dit, bon, on le laisse, voilà. Et puis, à la fin, chacun a partagé ce qu'il avait reçu. Et il y a eu des trucs super. Et Noam a fait un dessin d'une montagne avec des traits dessus. Il nous a dit, c'est des cultures. Ils cultivent quelque chose, là. Il a dit, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est une montagne avec des cultures. On a dit, waouh, Noam, 6 ans, qui dessine ça. Et quelque chose qu'on avait peut-être à cœur, c'était de partir au Cambodge. Et je ne sais pas si vous savez, mais au Cambodge, eh ben, ils cultivent le riz en étage. Et c'était quelque chose de fort. On s'est dit, waouh, Noam, il ne sait pas ça du tout. On ne lui a jamais appris ce genre de choses. C'est Dieu qui lui a parlé. Et pour nous, ça a été une confirmation. On s'est dit, waouh, c'est important ce que Noam a reçu de Dieu. Et on croit dans ce que tu as reçu de Dieu. On va prendre un autre exemple. L'exemple de Naaman. Vous connaissez l'histoire de Naaman. Et je ne vais pas insister sur le fait qu'il a été guéri, mais même si c'est génial. Mais je vais insister sur la petite servante de Naaman, qui était esclave, qui était au service de la femme de Naaman, et qui lui a dit, mais moi je sais, je connais un prophète, et peut-être que si tu allais le voir, tu pourrais être guéri. Donc c'est une petite fille, esclave, qui parle à un chef des armées, et qui lui dit, moi, je connais quelqu'un, il pourrait peut-être te guérir. Est-ce que vous imaginez la scène, déjà ? Pas facile, hein ? Pas facile de parler à un homme important et influent comme ça, et de croire et de dire, mais tu sais, moi, mon Dieu, il fait de grandes choses, hein ? Mon Dieu, il peut guérir. Hein ? Et elle lance juste cette phrase. Et après, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Et Naaman a été guéri, et ça a eu de l'importance pour Naaman, ça a créé de grandes choses chez lui. Il a dit, moi, maintenant, je sais qu'il n'y a que le Dieu d'Israël. Et c'est lui. Alors on se dit, c'est une toute petite phrase, une idée d'une petite fille esclave, mais qu'est-ce que ça a fait après comme conséquence ? Un grand miracle. Et on imagine aussi le témoignage de la guérison, que tout le monde a su, que le grand chef des armées avait été guéri, par qui ? Par le seul Dieu d'Israël, l'unique. Donc voilà, laissons nos enfants avoir de la compassion, aimer les autres, témoigner et guérir les malades. Je pense que David, tu es d'accord avec moi. Les enfants peuvent guérir les malades. Mon fils a prié dans les rues de Valence pour quelqu'un qui avait mal au dos. Du coup, à chaque fois, maintenant, il a « Bon, allez, tu veux, on prie pour toi. » Ça a boosté sa confiance en lui. Et ça, c'est trop bien. Et c'est quelque chose qu'on a vécu aussi pendant nos 6 mois de voyage. Parce qu'on a prié aussi ensemble. On n'avait pas assez d'argent. On avait fait une bouteille où on avait colorié le montant qu'il nous fallait. Et puis, petit à petit, on coloriait. Et puis, quand on est parti, ben, on n'avait pas assez. Donc, on s'est dit « On part, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on reviendra. » Selon, et puis on a continué à prier, à avoir la foi et à se dire « Ouais, on y va, on fonce. » Et puis quand on est revenu, on a fini de colorier la bouteille. Le jour où on a atterri pour notre retour. Donc voilà, juste de dire « Soyons encouragés, persévérons avec nos enfants. » J'aimerais prendre une autre histoire. C'est un petit gars avec 5 pains et 2 poissons. Vous connaissez cette histoire par cœur aussi. Juste accentué sur ce verset qui dit « Ouais, il y a ici un jeune garçon. » Il a 5 pains et 2 poissons, mais bon, qu'est-ce que cela pour autant de gens ? Genre, pff, ouais, c'est même pas la peine, quoi. Est-ce qu'on le considère ? Est-ce que... Et on sait le miracle qu'il y a eu derrière. Parce qu'ils ont choisi de le considérer. Ils auraient pu le rabourrer et dire, écoute, tu retournes dans le coin avec ton pique-nique. Nous, on est des grands, on fait des choses d'adultes. On va faire quelque chose comme il faut. Et toi, non. Non, Dieu a utilisé ça. Mais aussi parce qu'on lui a laissé la place. Alors des fois, ça, c'est la phrase que j'ai mise là, c'est « Laissons nos enfants être audacieux, avoir du courage et parfois des idées qui peuvent nous paraître folles. » Alors, ce n'est pas une idée vraiment folle, mais un témoignage quand on était à Tahiti. La famille avec qui on était, la famille de Zeller, a dû partir parce qu'ils ont eu un décès dans la famille. Donc, on s'est retrouvés, notre famille plus 2 jeunes. On était 7 et on n'avait qu'une voiture de 5 places. Donc, on était moyennement embêtés quand même parce qu'on n'aimait pas trop ce... Hein. On fait certaines choses dans certains pays, mais à Tahiti, non. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et puis notre fils Mathis, qui avait 9 ans, il a vu dans la résidence où on était un scooter à vendre. Il a dit, ben, on pourrait demander au monsieur qui vend le scooter s'il ne voudrait pas nous le prêter. Et alors là, il nous a dit ça, et je vous avouerai que notre première réflexion, ça a été, ouais, non, mais en fait, il le vend, son scooter, donc il ne va pas te le prêter, mon chéri, tu vois. Enfin, déjà, il ne va pas vouloir qu'on le roule avec, et puis en plus, ben, tu vois, son intention, c'est de le vendre. Donc, ton idée, elle est gentille, mais... voilà, ça, c'était notre première réflexion. Puis on s'est dit, ben, écoute, il a cette idée-là, il l'a partagée à toute l'équipe, pourquoi pas ? Et donc... ils sont allés voir ce monsieur qui a dit « Mais bien sûr, je vous le prête et vous ne me devez rien. Juste, je vous prête le scooter. » On s'est dit « Waouh !» On s'est dit « Bon, ben, voilà quoi. » Donc, des idées parfois un peu folles. Hein. Des fois, nos enfants nous mettent un peu au défi en disant « Ah ouais !» Ou on rencontre quelqu'un, un pauvre dans la rue. « Ah ouais, on pourrait faire ça. » On fait « Non, mais non, non, je te dis rien. Hein » Mais voilà, laissons-nous défier par eux aussi parce qu'ils ont des idées inspirées de Dieu. Je vais vous parler aussi de David, ce jeune berger. Ne prends pas garde à son apparence et la hauteur de sa taille. C'est un petit berger. Voilà quoi. On n'a même pas allé le voir. On s'est dit, non, 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 c'est bon, on a fait tous les enfants. Ah si, ouais, il en reste un là-bas, il est dans les champs. Voilà, bon, bref. Mais Dieu avait vu son cœur, il avait vu le potentiel qui était dans ce jeune homme. Il n'avait pas vu le simple garçon, le simple berger. Il avait vu tout ce qui pouvait devenir. Et la phrase que j'ai mise, c'est « Ayons ce regard de foi, de potentiel sur nos enfants, osons rêver. » Et quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé aussi à des personnes que vous connaissez peut-être. Il y a Bill Wilson, si vous le connaissez. C'est un pasteur américain qui a créé une grosse école du dimanche. Et c'est un garçon qui est né dans une famille avec beaucoup de difficultés, qui a été abandonné dans la rue. Vraiment, pas facile, quoi. Et Dieu a fait de grandes choses à travers lui. Aujourd'hui, son organisation, elle emploie 300 personnes et ils rejoignent 25 000 enfants par semaine. 25 000 enfants qui entendent parler de Dieu par semaine, avec ce petit garçon abandonné dans la rue. Alors, je pense que Dieu a vraiment regardé, c'est pour ça que j'ai mis ce beau pommier. Il n'a pas regardé juste la petite graine. Hein. Vous savez, la petite graine qui sont dans les pommes, on se dit, bon, je peux la tomber par terre et marcher dessus, ça ne fera pas grand-chose. Mais si, ça peut faire ça. Et Dieu, il voit nos enfants déjà comme ça. Il les voit avec tout leur potentiel et tout ce qu'ils peuvent faire. J'ai pensé aussi à William Booth. Mais mon chéri m'a dit, ça fait très quand même famille de parler de William Booth, mais si. Et de se dire, voilà, ce petit garçon, il n'y a pas eu une enfance facile aussi. Hein. On est en train de lire son histoire avec les enfants, et pas facile, quoi. Apprenti chez un prêteur à gages, la famille qui ne va pas bien. Eh bien, il a fondé l'armée du salut et tous les gens que ça a pu bénir aujourd'hui. Et de se dire, waouh, le potentiel qu'il y avait dans ce petit gars. C'est impressionnant. J'accélère, hein, j'ai vu que c'était tard. Des familles fortes pour une église forte. C'est une phrase qu'on aime bien. De se dire que, ouais, si les familles, elles sont fortes, elles tiennent la route ensemble, elles avancent, et ben ça fait une église solide. Et puis j'aimerais juste finir par vous parler de quelque chose que j'aime bien aussi. Je vais prendre un bouquin. On aime beaucoup les amis qui étaient avec nous pendant le voyage des 6 mois, c'est la famille Zeller. Et puis on aime beaucoup leur livre, Une vision pour la famille. Et juste, voilà, vous encourager, c'est vraiment quelque chose de chouette. Et ça développe aussi tout le côté capacité spirituelle, etc. Ça développe aussi la partie qu'a développée Timothée sur la transmission. Et puis il y a un autre livre dans lequel on aime bien, que j'ai en anglais, je suis désolée. C'est les 7 habitudes, en français, d'une famille qui réussit. Cette habitude d'une famille qui réussit. C'est pas un livre chrétien, mais il y a des super trucs dedans. Et juste vous dire qu'ils parlent de la famille et ils disent que la construction familiale se fait en plusieurs étapes. Il y a tout d'abord la survie. La survie, c'est une famille qui est au stade de... Elle lutte déjà pour se nourrir, elle lutte au niveau financier, au niveau social, au niveau spirituel. Il n'y a pas vraiment de structure ni de principe. Juste, on gère le quotidien. Et ces familles, elles sont souvent dans... c'est dur. Il y a la crainte, il y a l'incertitude. Et souvent, on se sent un peu victime, quoi, de dire... pourquoi tout ça m'arrive ? Qu'est-ce qui ne va pas ? On est un peu dans cette position victime. Et puis, le deuxième stade, on va dire, c'est la stabilité. Alors, juste vous dire que C'est une théorie, c'est une idée. Hein. Il n'y a pas de, voilà, d'accord, de vérité de se dire je suis dans une case. Pas du tout. Mais je trouve que ça fait réfléchir, vous allez voir. Et puis de se dire aussi que c'est un processus de vie de famille. Et puis se dire aussi qu'il n'y a rien qui est acquis aussi. Et que des fois, on se situe dans plus ou moins l'un ou l'autre domaine. La stabilité, c'est quand on a quand même une certaine organisation. On arrive à payer ses factures, le couple est stable, on arrive à communiquer. Bon, il n'y a pas de réel cœur à cœur, mais on arrive à communiquer. Et on trouve sa satisfaction dans des choses, mais pas forcément à l'intérieur du foyer. On aime bien développer plein d'activités autour, parce que c'est là qu'on est encouragé, qu'on est stimulé. Et voilà, le foyer est important, mais on s'épanouit plus à l'extérieur. Le succès, ça c'est une famille qui arrive à se fixer des objectifs. Ça peut être des projets immobiliers, ça peut être des vacances. La famille est importante, ils éprouvent une joie à se retrouver, ils ont confiance les uns en les autres. Ils s'efforcent de vivre au mieux et d'apprendre au mieux. Et puis, il y a l'épanouissement. Et là, c'est quand la famille commence à s'investir dans un projet qui est étranger à elle-même. Elle ne se contente pas d'avoir connu le succès et d'avoir pu faire des choses pour sa famille, mais elle se dit « Waouh, j'ai envie de faire des choses vers l'extérieur. » Et elle a un sens de responsabilité vers ce qui se passe autour. Une famille, au stade de l'épanouissement, elle commence à créer des choses. Elle se concentre sur une vision. Elle a une vision. Elle travaille aussi en équipe avec la place de chacun. Elle considère chacun dans les dons et les talents que Dieu lui a donnés. Et je trouve que ça fait réfléchir. C'est pas du tout un jugement. C'est pas du tout un fardeau. C'est juste de se dire quoi ? Qu'est-ce que je vis dans ma famille ? Est-ce que je me sens épanouie dans ma famille ? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place ? Alors ça peut être pour notre famille. Ça peut être notre famille élargie. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu pendant nos 6 mois de voyage, de se dire, waouh, allez, il faut sortir de notre zone de confort un peu et il faut aller aussi servir. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on avait envie de vivre que nous, en se disant, ben, on va faire garder les enfants ou on va les occuper et puis nous, on pourra les servir. Mais on a essayé de vraiment les impliquer dans toutes nos activités. Parce que leur relation avec Dieu, ce n'est pas la nôtre, c'est la leur personnelle. Mais à la fois, on a envie de les inclure dans le service et dans tout ce qu'on fait. Parce que notre transmission, ça fait partie aussi de servir et de bénir les autres. Il y a la transmission de la parole de Dieu, de tout ce qu'on peut leur donner, mais il y a aussi d'apprendre à servir avec nous et de se régaler. On a envie que nos enfants, plus tard, ils puissent servir Dieu parce qu'ils ont expérimenté ça. Et ils se sont dit, wow, qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que je me suis régalée. Qu'est-ce que je me suis régalée d'aller faire un cul de famille à Montélimar. À chaque fois, ils nous le disent. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Voilà, qui puisse se dire, waouh, je l'ai vécu, quoi. C'est pas quelque chose que j'ai vu papa et maman le faire, mais je l'ai vécu aussi, je l'ai expérimenté. Donc, je vais vous laisser avec ces questions. Comment je suis aujourd'hui dans ma famille? Comment je me ressens? Est-ce que je me sens épanouie? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que ma famille se sente épanouie? Et puis, j'aimerais élargir à l'Église en disant, qu'est-ce que l'Église peut mettre en place aussi pour que les familles soient épanouies, pour que les familles soient fortes? Voilà, je vous laisse avec ces questions et je vais laisser Pierre conclure. Je sais qu'il aime bien ça, conclure après.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.